pour commencer en introduction, vous donner les raisons un petit peu de cet après-midi que je consacre à la démocratie et à l'environnement. J'y reviendrai dans la partie introductive à la table ronde sur la démocratie. Mais si vous voulez, en fait, cet après-midi est le prolongement finalement du site que j'ai créé, ce Cité d'Europe, qui se consacre donc à la démocratie et à l'environnement. Alors, le thème de la démocratie, c'est un sujet que je suis depuis très longtemps, puisque j'ai écrit une thèse de doctorat qui parle de la démocratie. J'y reviendrai également, mais pas sur la thèse bien sûr, mais sur la démocratie dans l'Europe. Et puis l'environnement, c'est venu un peu plus tard, c'est vrai. Mais j'ai compris aussi, à un moment donné, en réfléchissant, que les deux thèmes étaient très lié. Je pense que d'ailleurs on va en discuter tout au long de cet après-midi. Mais vous allez, enfin, je suppose que d'ailleurs vous êtes également convaincus, mais d'un point de vue pratique, on va pouvoir constater qu'effectivement ce sont deux thèmes qui sont, à mon avis, intimement imbriqués l'un dans l'autre. Voilà. Je pense que l'environnement ne trouvera d'issue qu'avec une vraie démocratie intégrée, d'une part par chaque citoyen qui aura vraiment pris la mesure, la dimension de tous les enjeux liés à l'environnement, également de la responsabilité qui lui incombe d'intervenir dans ce domaine. Voilà. Alors, je vais introduire la table ronde sur la démocratie. Je vais vous dire quelques mots avant. Je vais essayer d'être très rapide pour essayer, encore une fois, de tenir le temps qui m'est imparti. Par rapport à la démocratie, le terme démocratie, d'un point de vue étymologique du terme, la salle se remplit, je suis content. D'un point de vue étymologique, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Le pouvoir par le peuple. Alors, quand on a dit ça, on a presque tout dit, hein, finalement. Sauf que quand on regarde l'histoire, à part Athènes, on n'a pas beaucoup d'exemples, malheureusement, de démocratie vraiment appliquée, si je puis dire. Alors, on a eu Athènes, effectivement. C'était une démocratie, je vais dire, partielle quand même, puisque c'était que les personnes qui partaient l'arme, mais les femmes étaient exclues et tous les autres également. Donc, mais on va dire que c'est un exemple quand même intéressant pour nous, puisqu'il n'était pas rare de voir 5 000, 6 000 personnes se regrouper pour discuter de différents sujets sur 2-3 jours. Alors le temps, effectivement, est important, mais la démocratie mérite du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque où le temps est compté, et je dirais même compressé de plus en plus, l'information est très rapide, et donc c'est difficile de donner du temps à la démocratie. Et pourtant, c'est indispensable. Alors, bon, après, des exemples de démocratie, vraiment, dans l'histoire, on en a beaucoup moins, finalement. On en retrouve au Moyen-Âge, quand même, avec des assemblées citoyennes dans les villages qui prenaient des décisions sur des sujets importants de la vie de tous les jours, puisqu'à l'époque, l'État ne s'intéressait pas du tout à la vie du village. Donc, effectivement, les villages s'organisaient eux-mêmes. Bon, alors effectivement, après, on peut parler de la Révolution française, de la Révolution américaine avec Washington, Danton. Mais est-ce que c'était des démocrates pour autant? Je ne suis pas... Enfin, d'ailleurs, bon, là aussi, la science politique le dit, ce n'était pas des démocrates. Ce n'était pas des démocrates. Montesquieu, oui, mais bon, Montesquieu n'a pas eu le pouvoir. Ce n'était pas démocrate, et des démocrates, et ne souhaitaient pas d'ailleurs que le peuple arrive au pouvoir. C'était le pouvoir entre les mains de quelques-uns. D'ailleurs, le pouvoir, ça peut être exercé donc par une personne, hein, on le voit dans la monarchie, ça peut être exercé par une minorité, des parlementaires, par exemple, c'est comme ça. Voilà. Après, on peut parler de démocratie représentative, mais c'est pas ce qu'on appelle une démocratie participative. Alors, je pense que là, nos intervenants, je laisserai la parole là-dessus, sur ce sujet-là, mais voilà, objectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce n'était pas des démocrates. Le mot démocratie, finalement, est intervenu seulement au milieu du 19e siècle, à peu près. Hein. Et encore, il a été repris par des politiques, finalement, qui se réclamaient du peuple. Parce qu'ils se sont rendus compte, quand même, que finalement, le peuple était légèrement exclu de la démocratie. Parce qu'évidemment, cette élite, parce que c'est des élites qui régnaient à l'époque, ne voulait pas que les pauvres prennent, que le peuple et les pauvres particulièrement prennent le pouvoir. Parce qu'ils n'avaient pas, soi-disant en tout cas, la culture pour prendre le pouvoir. Donc, le temps est passé. Puis finalement, bon, on s'est arrangé avec une démocratie représentative telle qu'elle est finalement aujourd'hui. Sauf que depuis les années 80, on s'aperçoit quand même que les partis, il y a délitement des partis politiques, des syndicats également, des corps intermédiaires en général. Et ce qui a d'ailleurs, c'est comme ça qu'est apparu, que sont apparus les mouvements extrêmes, hein, notamment, enfin les, en tout cas les, oui, les partis extrêmes. D'autres partis également, mais sans être pour autant d'ailleurs des partis de contestation. Hein, voilà. Bon, donc, et puis on a vu également l'abstention de plus en plus intervenir, également une alternance politique, et puis une méfiance, voire une défiance même à l'égard des pouvoirs publics. On en parlait encore hier soir dans un grand débat organisé à Fondette par toujours par Thierry Dréano d'ailleurs, qui sera le modérateur de la table ronde. Voilà, donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un véritable problème de la démocratie qui s'est même accentué depuis 2015, puisque on peut dire que les partis de gouvernement sont eux-mêmes atteints par cette crise démocratique. Voilà. Donc ce qui est vrai au niveau de l'État et des pouvoirs et même des collectivités subétatiques, on va dire, est vrai aussi au niveau de l'Europe. Alors le problème de la démocratie au niveau de l'Europe n'est pas nouveau. Moi, je l'avais traité en 1998 hein, dans le cadre de mes études. Mais on parlait déjà à l'époque de déficit démocratique. Et c'est vrai que force est de constater qu'on n'a pas forcément trouvé de solution. Et je dirais même que le fossé s'est largement creusé entre l'Europe, finalement, et puis les pouvoirs publics en général, Europe, ou, enfin, européens ou États membres, et les citoyens. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens sont dans la rue, protestent, qu'il y a des mouvements qui naissent, qui tentent de s'affirmer, puisqu'effectivement, on voit bien qu'il y a un problème de renouvellement de la classe politique. Ce sont toujours les mêmes, finalement, qui se succèdent au pouvoir. Voilà. Alors, bon... L'Europe a de bonnes intentions, certainement, puisque le préambule parle par exemple d'une union sans cesse plus étroite des peuples. Donc il parle d'une certaine solidarité, bon, très bien, qui reste pour l'instant un vœu qui est pieux, on faut bien le dire. Il y a également la subsidiarité, qui est un terme qui est d'origine un petit peu allemande, enfin qui date de Saint Thomas d'Aquin, mais on ne va pas faire d'histoire, mais qui est vraiment appliqué au niveau de l'Allemagne en tout cas, où vraiment... On constate qu'il y a une hiérarchie du pouvoir au plus près du citoyen, normalement en tout cas. Alors, ça peut s'améliorer aussi, mais finalement, on se rend compte que le principe de subsidiarité est un principe, c'est un principe gigogne finalement, où le pouvoir doit être exercé au plus près du citoyen, là où il est le plus utile, le plus efficace, c'est-à-dire en fait donc au niveau du citoyen. Et c'est seulement s'il ne peut pas être appliqué au niveau adapté, c'est-à-dire citoyen, local ou régional, que les États membres prennent le relais et ensuite, normalement, ce serait l'Europe. Sauf que le principe de subsidiarité au niveau européen n'est un principe qui n'existe qu'entre l'Europe et les États. C'est un principe qui ne se décline pas au niveau des collectivités territoriales. Et c'est bien dommage. Mais effectivement, les structures institutionnelles des États membres sont totalement différentes. Donc, différents, et je veux dire, donc, c'est assez compliqué après de le décliner. Voilà, donc... Le problème de la démocratie est un véritable sujet et au niveau de l'Europe, il est vraiment prégnant. Ce n'est pas pour rien quand même qu'il y ait eu différents référendums négatifs depuis 2005, que ce soit en France, aux Pays-Bas pour 2005, avec le traité constitutionnel européen, qui est quand même passé malgré tout avec le traité de Lisbonne. Mais, et d'ailleurs, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport d'ailleurs au traité de Lisbonne, hein, c'est simplement un fait. Hein. En 2015, il y a eu également un nouveau référendum aux Pays-Bas avec l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Europe, qui s'est également soldé par un vote négatif, mais effectivement dont personne n'a tenu compte finalement. En Grèce, il y a également eu un référendum qui a été négatif, à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un problème démocratique qui est récurrent. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a une certaine opacité des différentes négociations internationales. Je pense bien sûr aux accords transatlantiques avec le TAFTA, par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive également en même temps. Moi personnellement, d'ailleurs, je reste objectif, mais je n'étais pas pour. Uniquement d'ailleurs, au moins pour commencer, pour des raisons démocratiques. Voilà. Puisque en fait, personne n'avait lu ce traité. Finalement, à part ceux qui décident finalement, mais personne ne connaissait vraiment les termes du traité. Voilà, donc opacité, pas de problème de transparence, problème donc de démocratie. Mais bon, on a des solutions et il appartient encore à nouveau, je pense, aux citoyens de s'organiser, de se structurer. C'est ce qui se passe d'ailleurs, on le voit bien, il y a beaucoup de mouvements citoyens qui s'organisent. Il y a le pacte civique qui est là, il y a CAP 21 qui est dignement représenté, Corinne Lepage va venir tout à l'heure. Ce sont véritablement, alors il ne s'agit pas de faire de... Bon, je vais éviter de rentrer dans les discussions politiques, dans les débats politiques, je veux pas. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que le citoyen, je suis tenté toujours, mais non, le citoyen a véritablement un rôle à jouer, très important, ça lui appartient, c'est sa responsabilité, c'est ce que je veux dire. Et voilà, donc on va tout de suite donc prendre place au niveau de la table ronde. Alors il y aura donc Thierry Dreano qui sera le modérateur de cette table ronde. C'est il est coordinateur en fait du comité local En Marche, l'AREM, donc Fondette Luynes, voilà. Joseph Spiegel, qu'on ne présente plus, hein, qui est donc président de Place Publique, mais et puis également maire de Kingersheim, que je remercie beaucoup d'être venu de si loin. Hein. Charles Fournier, alors pardon, je vais commencer avec les femmes. Oh là là, je suis impardonnable. Chantal Cutajar, une fidèle parmi les fidèles, mon Dieu. Voilà, qui est donc adjointe à la mairie de Strasbourg, chargée de la démocratie. Et Charles Fournier, c'est vrai que, bon, on se connaît par cœur, enfin presque. Qui est donc vice-président. avec toi, non, je suis jamais surpris, ou toujours surpris, je sais pas. Qui est vice-président au conseil régional, donc chargé de la démocratie, notamment. Enfin voilà, donc il va nous parler un peu de tout ça. À vous, messieurs. Messieurs, dames, oh là 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 là, oh, c'est.